Bien, bonjour. Je voudrais remercier à mon tour le professeur Thomas Römer de son invitation. Qui est Métatron ? La réponse à cette simple question est ardue. Inutile de chercher dans la Bible hébraïque, vous ne trouvez trace d'un quelconque patriarche ou d'une obscure figure de juge portant ce nom. Aussi surprenant soit-il, la figure de Métatron est pourtant entrée dans la culture contemporaine mondialisée, comme en témoigne ce jeu vidéo japonais intitulé El Shaddai, l'ascension de Métatron. Rassurez-vous, je ne vais pas passer le temps de ma communication à vous faire une démonstration de ce jeu d'action, mais le titre et le principe de ce jeu me semblent significatifs. En effet, le titre est déjà porteur d'une ambiguïté apparente, puisqu'il est d'abord question de El Shaddai, nom divin attesté à une haute antiquité et repris parmi les nombreuses désignations du Dieu d'Israël dans la Bible hébraïque. Le principe du jeu ajoute une seconde ambiguïté, puisque les joueurs doivent prendre le contrôle d'Enoch, revêtu d'une armure, afin d'affronter des ennemis à travers les cieux. Il n'est donc jamais question de Métatron comme héros du jeu, mais bien d'Enoch. Le patriarche est en revanche mieux connu, puisqu'on dit de lui, en Genèse 5, versets 23 à 24, qu'après une vie terrestre de 365 ans, je cite, « Enoch marcha avec Elohim, puis il ne fut plus, car Elohim le prit ». Le motif de l'enlèvement divin de Enoch, soustrait pour ainsi dire à la mort, qui affecte les humains, suscita une abondante littérature dans tous les courants du judaïsme ancien. L'analogie opérée dans le jeu vidéo entre Enoch et Métatron prend place dans ce cadre du judaïsme de la fin de l'Antiquité et du Moyen-Âge. La figure si familière à ces époques d'Enoch, traversant les cieux pour s'approcher au plus près du trône divin, puis descendant sur terre pour apporter aux humains les fruits de la connaissance, se transforme probablement, par extrapolation, en celle de l'ange le plus élevé dans les cieux et du Yahvé Katan, littéralement le petit Yahvé en hébreu, au sens ambigu. L'adjectif « petit » désigne-t-il un dieu inférieur à Yahvé, un dieu jeune ou encore l'ange intime avec Dieu ? La figure mutante d'Enoch reçoit un nouveau nom dans les textes juifs, Métatron. Ce nom a probablement traversé les époques puisqu'il est cité abondamment dans le Talmud de Babylone et dans un texte rattaché à la mystique juive de la Merkava, c'est-à-dire le trône-char de Dieu, que les modernes ont pris l'habitude de nommer Sefer Eralot, littéralement le livre des palais célestes, 3 Enoch ou 3e livre d'Enoch, car ils pensent voir une continuité avec les traditions contenues dans les deux premiers livres d'Enoch. Par ailleurs, l'intérêt pour Métatron dans la recherche s'est ravivé récemment avec la comparaison entre d'un côté les traditions sur Métatron et de l'autre côté le rapport problématique entre Jésus et Dieu le Père dans le christianisme primitif. À l'énoncé de ces quelques éléments introductifs, on perçoit déjà la difficulté de caractériser la figure de Métatron. Par sa filiation avec les traditions sur Enoch, il endosse le costume de patriarche. Par sa proximité avec Dieu, il est assimilé à l'ange le plus haut dans les cieux. Et par ce même argument, on peine à délimiter sa désignation angélique et son identité divine. Pour expliquer ses identités multiples, homme, ange, voire Dieu, ainsi que le changement de nom d'Enoch à Métatron, il demeure primordial d'examiner les contextes dans lesquels prend place Métatron. Bien évidemment, on ne peut pas prendre ici les textes un à un, car les occurrences sont trop nombreuses. De plus, le repérage de traditions dans les écrits rabbiniques aboutirait à un catalogue de fonctions attribuées à Métatron, avec aussi une kyrielle de titres et une tendance à expliquer l'étymologie du nom Métatron selon la fonction qu'on lui attribue en priorité. En bref, je pointe la croissance exponentielle des fonctions assignées à une figure devenue emblématique d'un courant de pensée ou d'une idée centrale dans la littérature ad hoc, ce que les collègues anglo-saxons nomment une figure multitâche. Dans cette perspective, on peut citer d'autres exemples, comme Moïse, Abraham, le maître de justice, Jésus de Nazareth ou encore Rabbi Akiba. Métatron appartient assurément à cette catégorie, car il est décrit tour à tour comme scribe, agent de la révélation des secrets divins, figure de médiation de la connaissance et du jugement, intercesseur entre Dieu et les hommes et vice-versa, juge suprême à la cour céleste, secrétaire particulier de Dieu auprès des autres anges, grand prêtre céleste, voire chef de la liturgie angélique dans les cieux, ou chef de chœur. Également chambellan divin avec le titre « prince de la présence », sous-entendu divine, mais aussi maître du monde sous l'égide de Dieu, expert de la sagesse divine, jeune, titre porté pour signifier probablement son statut de nouvel Adam ou de nouvel Enoch, aussi de petit Yahvé, comme je l'ai dit, sorte d'ange au trait divin ou de manifestation inférieure du nom de Dieu, et enfin de double anthropomorphique de Dieu à la taille incommensurable. Il n'est donc pas étonnant qu'on ne sache qualifier Métatron d'homme, d'ange ou de Dieu, ou bien des trois à la fois, car cet instantané est le résultat d'interactions littéraires complexes et de lents développements littéraires que les études de Gershom Scholem, Philippe Alexander ou Andrei Orlov ont récemment tenté de caractériser. Je ne reprendrai pas ces études, faute de temps, parce que je souhaite vous présenter un apport récent des études rabbiniques appliquées à la figure de Métatron. En effet, depuis une vingtaine d'années, les études rabbiniques connaissent enfin une approche historique. Les recherches les plus récentes mettent l'accent sur les situations politiques et économiques différentes qu'ont vécues les sages en Palestine sous domination romaine et byzantine et les sages en Mésopotamie sous domination parthe puis sassanide. Bien que souvent en lutte politique voire armée, l'Empire byzantin et l'Empire sassanide ont néanmoins connu d'importants échanges économiques et culturels. C'est dans ce cadre qu'il faut probablement penser la circulation de traditions rabbiniques entre la Palestine et la Babylonie. Toutefois, certaines traditions semblent être restées circonscrites à l'une ou l'autre région. Pour la figure de Métatron, on propose de voir si une telle distinction historique et géographique est pertinente afin d'expliquer ses multiples identités. Une des plus anciennes citations de Métatron se trouve dans le Sifrei Deutéronome, un midrash de la génération des sages Tanaïm qui fut compilé avant le début du IVe siècle de notre ère. Au paragraphe 338, on lit « En ce jour-là, le Seigneur s'adressa à Moïse comme suit « Gravis cette montagne des Avarim, le mont Nebo, qui est dans le pays de Moab, en face de Jéricho, et regarde le pays de Canaan, que je donne aux Israélites en possession. » C'est la citation de Deutéronome 32, 48 à 49. Rabbi Eliezer dit « Le doigt du Saint, béni soit-il, est ce qui a servi à Moïse en tant que Métatron, en lui montrant toutes les villes du pays d'Israël, ce qui est loin du territoire d'Éphraïm, ce qui est loin du territoire de Manassé. » Rabbi Josué dit, « Moïse lui-même le vit en entier par lui-même. Comment cela ? Il, c'est-à-dire Dieu, renforça les yeux de Moïse, et il vit depuis une extrémité du monde à l'autre. » Le terme Métatron signifie ici clairement le guide dans tous les manuscrits conservés, c'est-à-dire une traduction dérivée des mots latins et grecs « métator ». Le passage n'identifie pas ce nom avec un ange, mais avec le doigt de Dieu. D'ailleurs, les deux sages mobilisés discutent seulement l'anthropomorphisme de Dieu. Rabbi Eliezer explique Deutéronome 32, 48 à 49 avec cette image du doigt de Dieu, alors que Rabbi Josué conteste l'image en rapportant la capacité surnaturelle de Moïse à voir le monde, une capacité certes voulue par Dieu, mais sans son intervention directe. Le débat ainsi relaté et la relation explicite entre le doigt de Dieu et le mot Métatron livrent une clé de compréhension des identités multiples de Métatron. En effet, des milieux rabbiniques utilisaient des images concrètes pour décrire l'action de Dieu et des anges dans l'histoire biblique. Cependant, ces représentations anthropomorphiques restent toujours circonscrites à cette époque, comme ici avec le doigt de Dieu. Ces sages ne semblent pas s'inscrire dans une volonté de transgresser la tradition de non-représentation du Dieu d'Israël, puisque déjà le livre d'Ézéchiel comporte des images anthropomorphiques, à l'instar de la main de Dieu qui saisit le prophète pour lui donner un oracle, en Ézéchiel 1.3, 3.14, 22, etc., ou même un rouleau en Ézéchiel 2.9. Le passage de Sifrei Deutéronome se comprend davantage selon cette perspective, qualifiée souvent de mystique. Le texte, entre autres, montre que de telles idées circulaient dans le judaïsme rabbinique, et la réponse de Rabbi Josué signale qu'une telle tendance demeurait débattue au début du IVe siècle. On devine aussi que l'assimilation du doigt de Dieu avec le terme Métatron constituait une pierre d'attente vers la fusion des deux motifs, vers la personnification angélique ou divine. Un midrash palestinien plus tardif, 5e-6e siècle, Genèse Rabba ou Bereshit Rabba, décrit Métatron en des termes comparables. Un passage commente à la fois le commandement divin en Genèse 1.9, je cite, « Dieu dit, que les eaux au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le pays sec paraisse, et il en fut ainsi. » Également le psaume 104,7 qui reprend le pouvoir créateur de Dieu à cette occasion, je cite, « Elles, c'est-à-dire les eaux, ont fui devant ta menace, elles se sont affolées à la voix de ton tonnerre. » Puis, en Genèse Rabba 5,4, on ajoute à la suite, « Rabbi Lévi dit, quelques commentateurs, en contexte Ben Azaï et Ben Zoma, interprètent, la voix du Seigneur devint un métatron ou mitatron selon les manuscrits des eaux. Comme il est écrit, la voix du Seigneur est sur les eaux, qui est une allusion au psaume 29.3. Une glose et un commentaire dans le manuscrit de Londres suggèrent de lire non métatron, mais métator ou mitator, c'est-à-dire le guide. De nouveau, il n'est pas question de Métatron comme un ange ou comme une figure divine, mais simplement de la voix de Dieu qui guide les eaux pour laisser affleurer la terre, c'est-à-dire les continents. La glosse commentée du manuscrit de Londres confirme cette compréhension. À la différence du passage du cifré de Théronome, il n'est pas sûr qu'on puisse faire de la voix une représentation anthropomorphique de Dieu. Le passage de Genèse Rabba ne porte pas trace, d'ailleurs, de débat sur un tel sujet, contrairement au cifré. Mais l'édition de Vilnius de Genèse Rabba mêle les deux passages. Ainsi, on peut comprendre en contexte que la seule mention de Métatron ne dit rien d'une figure humaine angélique ou divine en Genèse Rabba 5.4. En revanche, des milieux rabbiniques semblent avoir harmonisé le nom commun avec la figure de Métatron selon l'édition de Vilnius. Toutefois, le débat sur l'anthropomorphisme de Dieu n'est pas repris. La comparaison des extraits du cifré et de Genèse Rabba montre qu'avant de devenir une figure, Métatron est un nom commun pour dire le guide. Cette fonction attribuée à Dieu, dont le doigt guide Moïse dans le cifré et dont la voix pousse les eaux en Genèse Rabba, semble avoir conduit des milieux rabbiniques, peut-être mystiques, à faire de Métatron un ange supérieur ou un personnage au trait divin. Un autre texte palestinien, le Targum du pseudo Jonathan, dont la compilation est tardive mais qui contient des traditions anciennes, traduit et interprète ainsi le fameux passage déjà cité de l'enlèvement d'Enoch en Genèse 5.24. Je cite « Enoch pria en vérité devant le Seigneur, et voici qu'il ne fut plus avec les habitants de la terre, parce qu'il fut pris et il monta jusqu'au firmament sur l'ordre de Dieu. Et il fut appelé Métatron, le grand scribe. » La date de ce passage demeure difficile à établir, mais on constate que Métatron est ici un nom propre, une figure assimilée explicitement à Enoch. Le titre araméen de grand scribe, Safra Rabba, conféré à Métatron, rappelle la qualification, je cite, « d'homme droit et scribe de vérité » donnée à Enoch dans le livre des Vigilants en 1 Enoch 15.1 à l'occasion d'un commentaire sur le même verset biblique. Également, le titre de scribe est attribué à Enoch dans l'épître d'Enoch en 1 Enoch 92.1 selon les versions grecques et éthiopiennes. Toutefois, il demeure difficile de dater cette assimilation entre Enoch et Métatron sur la seule base de ce titre de scribe attribué à Enoch depuis le 3e siècle avant notre ère, car une telle tradition circula en Palestine durant de nombreux siècles. Quoi qu'il en soit, le passage ne semble pas disserter sur Enoch comme un ange supérieur dans les cieux qui se transformerait en un Métatron au trait divin. Dans un autre passage du Targum sur Deutéronome 34.6, Métatron apparaît avec les anges Yophiel, Uriel et Yephéphia au pied du lit de mort de Moïse. Il est donc probable qu'Enoch désigne une figure humaine dans le passage étudié et que l'assimilation à Métatron signifie son angélification, c'est-à-dire sa transformation en ange. Les traditions sur le patriarche Enoch, homme au destin singulier dans sa relation à Dieu, ont donc servi à expliquer et justifier le passage du nom commun Métatron, le guide, à Métatron, une figure angélique, voire divine. Le changement de nom d'Enoch à Métatron est le signe de cette mutation. Malheureusement, on ne sait dater un tel motif. Un autre texte rabbinique palestinien, rédigé entre la fin du 5e siècle et le début du 7e siècle, l'histoire des 10 martyrs, identifie Métatron au prince de la face, Sar Apanim, qui reçut Rabbi Ishmael dans les cieux afin de s'entretenir avec lui de la foi des 10 martyrs. Rabbi Ishmael apprend de Métatron que la raison d'être de l'autel en face de lui est le sacrifice des âmes des justes par les anges. On peut rapprocher ce passage du Talmud de Babylone au traité Agiga 12b, Zeva 62a et Ménaroth 110a, qui fait de l'ange Michel celui qui offre les sacrifices dans le temple céleste. De nombreux textes juifs rédigés durant les 3 derniers siècles avant notre ère accordent à l'ange Michel une place supérieure aux autres anges. Il est alors probable que le Talmud de Babylone prolonge cette tradition bien connue. Pourquoi l'histoire des 10 martyrs accorde-t-elle une telle place à Métatron et non à Michel? Le texte du Midrash nous est connu seulement par des manuscrits tardifs, le plus ancien datant du 15e siècle. C'est pourquoi on peut penser que Métatron, devenu l'ange supérieur dans le judaïsme rabbinique entre-temps, a remplacé Michel lors de la copie des manuscrits. Cette fois-ci, le texte étudié ne nous renseigne pas sur les identités multiples de Métatron en Palestine, mais sur le succès grandissant de la figure angélique de Métatron au point de supplanter la figure angélique plus ancienne de Michel. Du reste, le titre de Métatron l'ange, le prince de la face, se lit fréquemment en 3 Enoch, dont la dernière compilation eut lieu en Babylonie entre le début du 8e siècle et le début du 10e siècle, mais qui peut contenir lui aussi des traditions palestiniennes plus anciennes. Une modification similaire pourrait avoir eu lieu dans le texte aux accents mystiques des Réouillot Yereskiel ou Vision d'Ézéchiel, à la date de rédaction aussi débattue. Je lis « Rabbi Lévi dit au nom de Rabbi Amma ben Ukba, qui dit au nom de Rabbi Yohanan. Le prince n'habite pas n'importe où, mais dans Zévoul, c'est-à-dire le troisième ciel, et il est la plénitude du Zévoul. Et devant lui sont les milliers de milliers et les myriades de myriades qui l'administrent. Deux, il est dit par Daniel, « Comme je regardais, des trônes étaient mis en place. » Une rivière de feu coulait. Rappel de Daniel 7, 9 à 10. Et quel est son nom ? Kimos est son nom. Rabbi Isaac dit Métaa est son nom. Rabbi Inyanaï bar Sasson ou Sisson dit Anzevoul est son nom. Rabbi Tanroum l'ancien dit Atatia est son nom. Eleazar Nadvadia dit Métatron comme le nom de la puissance. Et ceux qui font un usage théurgique du nom disent Salnas est son nom. Kas, Bas, Bas, Kabas est son nom, semblable au nom du Créateur du monde. Le passage décrit le troisième ciel, où réside la figure anonyme du prince, donc. On comprend avec la citation du livre de Daniel que des anges le servent. Puis, on tente d'en savoir plus sur l'identité, sur le nom du prince. On lit une série de nomina barbara, lisibles mais inintelligibles, jusqu'au nom propre Métatron, qui lui est bien connu, puisqu'on le compare au nom de la puissance, une désignation habituelle de Dieu. Dès lors, il est possible que le prince soit à identifier à Métatron. Comme pour l'histoire des dix martyrs, il y a néanmoins fort à parier que le prince soit originellement l'ange Michel. La référence au livre de Daniel, où Michel apparaît, irait aussi en ce sens. Le texte aurait pu être interpolé plus tardivement avec une glose sur la recherche de l'identité du prince à partir de la question « Quel est son nom ?» De nouveau, la figure d'ange supérieur qu'est Michel dans les traditions juives anciennes est supplantée probablement plus tardivement par la figure de l'ange Métatron. Un passage déjà cité du traité Agiga 12b du Talmud de Babylone, entre autres exemples babyloniens, décrit justement Zévoul. Bien qu'il s'agisse alors du quatrième ciel, derrière ce terme, l'ange Michel est celui qui préside au sacrifice sur l'autel céleste. De nouveau, il est possible que des milieux palestiniens aux tendances mystiques et remplacer Michel par Métatron dans les visions d'Ézéchiel. Une même modification est aussi perceptible dans le Midrash tardif, c'est-à-dire du XIIe siècle, de nombreux rabbins ou Bamidbar rabbins, 12-12, où, je cite, le tabernacle de la jeunesse porte également le nom de Métatron. De ce panorama de textes palestiniens, on comprend qu'avant d'être un humain, un ange ou une figure divine, le vocable Métatron désigne celui ou ceux qui guident. Des milieux rabbiniques palestiniens ont décrit les manifestations de Dieu dans l'histoire biblique, plus précisément les moyens de ses interventions, son doigt ou sa voix dans les exemples cités, avec ce nom commun. Des sages ont immanquablement discuté cette association pour en conclure que le Métatron est un ange supérieur ou un être de nature quasi-divine. Une telle transformation est loin d'être unique, elle est même probablement à la genèse des anges et des démons dans le judaïsme ancien. On avait parlé ici même l'année dernière du passage du nom commun « hostilité », « mastema » en hébreu, lu dans le livre d'Osée 9, 7 et 8, au nom propre « mastema » dans le livre des Jubilés, devenu un démon qui se substitue à Dieu lorsqu'il s'agit d'expliquer ses actes iniques. Toutefois, le développement littéraire de la figure de Métatron est plus complexe, car il s'appuie explicitement sur la figure humaine d'Enoch à cause de sa proximité et de son lien unique avec Dieu, puis la supplante. La personnification de Métatron ne vise pas à nommer un ange de plus, mais à établir un être d'une proximité incomparable avec Dieu. Pour ce faire, la figure d'Enoch est mobilisée. On laisse entendre, non pas que Métatron était un simple nom commun personnifié, mais que Métatron est la transformation d'Enoch qui a côtoyé Dieu au plus près dans les cieux. Dans la même perspective, mais avec un procédé dissimulé par les réécritures, l'identité de l'ange Michel, qui officiait comme ange supérieur auprès de Dieu, au tournant de notre ère, est usurpée par Métatron. Dans les écrits rabbiniques babyloniens, les descriptions de Métatron trouvent leur apogée dans la dernière compilation du texte mystique de 3 Enoch, comme je l'ai dit, entre le début du 8e siècle et le début du 10e siècle. Enoch s'y transforme physiquement, puis il est investi sur un trône similaire au trône divin de gloire, à l'entrée du palais dans le 7e ciel. Au sein de myriades d'anges nommés, il reçoit le titre de Yahvé le Petit, dont on a parlé au début de cet exposé. Le Talmud de Babylone possède aussi de nombreuses mentions de Métatron. Dans le traité Agiga 15a, Aher, c'est-à-dire Elisha ben Avouya, voit Métatron sur un trône céleste. Il en conclut qu'il existe deux pouvoirs, Rachouyot, dans les cieux. Mais cette conclusion ne peut convenir, si bien que Aer est taxé d'incroyance et Métatron reçoit 60 coups de fouet de feu. Métatron est donc perçu comme un second dieu dans ce passage. Le traité Beraroth 7a préserve le récit de Rabbi Ishmael ben Elisha, d'origine sacerdotale, qui entra dans le Saint des Saints. Il, je cite, « vit Akatriel Yah, le seigneur des armées, siégé sur un trône élevé et exalté. En ce lieu, on ne peut s'attendre qu'à voir Dieu. C'est pourquoi Akatriel Yah est sans doute une désignation du Dieu d'Israël. Des textes apparentés au Eiralot, la littérature des palais célestes, comme Zoutarti 501, la Haggadah de Rabbi Ishmael et l'appendice de 3 Enoch 15b, contiennent la même identification d'Akatriel avec Dieu. Cependant, un passage de l'écrit mystique Maase Merkava fait de Rabbi Ishmael ben Elisha, Elisha ben Avuya, c'est-à-dire Aer, probablement sur la base du nom Elisha commun aux deux noms, et Akatriel endosse alors le costume de l'ange assis à l'entrée des cieux, c'est-à-dire la fonction de Métatron. Akatriel n'est donc pas ici perçu comme un dieu, mais comme l'ange supérieur. D'ailleurs, Aer ne parle pas de deux pouvoirs dans les cieux au paragraphe 597. Je cite « Seigneur du monde, tu écrivis dans la Torah, voici, au Seigneur ton Dieu, appartiennent le ciel et le ciel des cieux. » Et il est écrit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament annonce l'œuvre de tes mains, une seule. » Il me dit « Elisha, mon fils, es-tu peut-être venu afin de réfléchir à mes normes ? N'as-tu pas entendu la parabole que les êtres humains appliquent ?» Elisha semble reprocher à Dieu d'avoir installé Akatriel sur un trône à l'entrée des cieux, car cela donne l'impression de deux pouvoirs dans les cieux. De manière surprenante, Dieu ne dément pas cette vue. Il dit seulement à Elisha qu'il n'a pas à réfléchir sur les normes mises en place par lui-même. C'est pourquoi le texte assume, implicitement, l'existence effective de deux pouvoirs dans les cieux, avec Dieu d'un côté et Akatriel Métatron de l'autre, faute de la démentir. Un autre passage seulement conservé dans le Talmud de Babylone, au traité Sanhédrin, folio 38b, raconte la dispute entre Rav Idit et un mine, ce qu'on a pris l'habitude de traduire par un hérétique, au sujet de l'interprétation d'Exode 24.1. Je cite « Et à Moïse, Dieu dit, monte vers Yahvé. » Le mine pensait que le nom divin devait être corrigé pour être cohérent avec le discours direct. Il suggère de dire « monte vers moi ». Le sage répondit que la tournure devait demeurer car le nom de Métatron est comme celui de Yahvé. À travers ces extraits choisis des textes juifs babyloniens, on perçoit que des milieux juifs babyloniens se préoccupent davantage de Métatron comme l'ange supérieur ou comme un second dieu, non sans en débattre. Il n'est pas question ici d'un nom commun ou de l'assimilation avec le patriarche Enoch L'assimilation avec le patriarche Enoch en 3 Enoch relève probablement de l'histoire littéraire complexe du texte entre la Palestine et la Babylonie. La multitude des identités de Métatron correspond à une vue générale des écrits rabbiniques et mystiques. Cependant, la distinction entre les écrits palestiniens et les écrits babyloniens me semble donner des indications sur le développement littéraire de la figure dans le judaïsme ancien. En effet, les textes palestiniens partent du nom commun Métatron, appliqué à des manifestations de Dieu dans l'histoire biblique pour en faire une figure angélique supérieure aux autres anges. La proximité d'Enoch avec Dieu sert alors de modèle, ce qui entraîne une assimilation d'Enoch avec Métatron. Antérieurement à Métatron, circulait aussi en Palestine une tradition faisant précisément de l'ange Michel cette figure angélique supérieure. Des indices de réécriture montrent que Métatron a supplanté Michel dans des manuscrits médiévaux. D'un autre côté, les textes babyloniens, au moins dans leur rédaction finale, me semblent attester une préoccupation très forte pour le statut angélique de Métatron et plus particulièrement sa relation avec Yahvé. Des passages allant jusqu'à décrire explicitement Métatron comme un second dieu. Une telle affirmation ne se rencontre pas, à ma connaissance, dans des textes palestiniens. Bien qu'il soit vraisemblable que les traditions palestiniennes sur Métatron aient été en partie reprises dans le judaïsme babylonien, ce dernier semble éprouver très peu de difficultés théologiques à considérer Métatron comme un second dieu. Malheureusement, on sait très peu du contexte des communautés juives en Babylonie, mais il est probable que le polythéisme ambiant dans l'Empire sassanide ne pouvait constituer un frein à de telles spéculations, ce qui, évidemment, n'est pas le cas dans l'Empire byzantin devenu chrétien. Je vous remercie.